Actu SF, les podcasts.
Bien, bonsoir. Alors, on est ici pour écouter Stéphane Marsan, qui va vous donner des conseils, conseils pour les jeunes auteurs. Alors, quand on dit jeune, hein, c'est toujours la même chose. Vous pouvez être vieux, vous êtes considéré comme jeune jusqu'à ce que vous ayez publié le premier livre. Donc, ça va, on peut être jeune auteur très tard, en fait. Ce que je vous propose, ça va être de l'écouter, principalement, parce qu'en fait, il a tellement de choses intéressantes à dire que, voilà, on va commencer par ça. Et puis, dans un deuxième temps, si vous avez envie, vous, de lui poser des questions précises et puis de continuer à l'écouter. Mais comme ça, on pourra aller vers ce qui vous intéresse, ce qui vous a amené à venir ce soir pour l'écouter. Voilà. Stéphane, conseil aux jeunes auteurs. Tu veux pas que je te pose des questions ? Bon, alors, d'accord, je te pose des questions.
Bonsoir.
Bon, alors, conseil aux jeunes auteurs, pourquoi déjà, première chose, pourquoi ça t'intéresse de conseiller les jeunes auteurs? Parce que t'en as quand même plein, et puis t'en as plein qui sont plus du tout jeunes et qui
sont... Oh, sympa.
Et qui ont un grand, grand succès, et pour autant, tu continues à t'intéresser aux jeunes auteurs?
Eh ben parce que j'en ai jamais assez. Parce que, c'est vrai que j'ai commencé ma carrière en faisant ça. Il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine, j'ai créé et dirigé les éditions Mnemos. Eux, ils n'ont pas l'air de s'en rappeler, mais moi, je m'en souviens. Et ce que j'ai fait là-bas, c'est que j'ai publié des jeunes auteurs francophones. Ce qui a surpris tout le monde, à savoir parce qu'à l'époque, alors je vous parle de ça il y a 95, hein, quand je vous dis il y a longtemps, c'est il y a un bail, c'est qu'il y en avait très peu, ou il y en avait de nouveau très peu. C'est-à-dire qu'il y avait eu, évidemment, plein d'auteurs français publiés en science-fiction et fantasy, avant moi, chez Mnemos, hein, pas de malentendu, Collection Anticipation, J'ai lu, La Talente, etc. Mais c'était le moment où en fait, une nouvelle génération d'éditeurs avait envie de nouveau de publier des auteurs francophones, alors que les autres éditeurs en charge des grandes collections historiques, Pocket, J'ai lu, etc., ne le faisaient plus ou très très peu, pour des raisons essentiellement économiques, c'est-à-dire qu'ils considéraient, enfin ils en avaient même des preuves chiffrées, c'est que les auteurs français et francophones ne s'en vendaient pas assez, comparé aux traductions des auteurs anglo-saxons. Et moi, assez spontanément, j'ai eu envie de publier des auteurs français, quand j'ai lancé Mnemos, donc c'est Mathieu Gabory, Fabrice Collin, Laurent Klotzer, Pierre Grimbert, voilà. Et donc c'est une expérience, alors je l'ai fait innocemment, c'est-à-dire j'ai pas réfléchi en me disant il faut faire ça parce que ça marchera, c'est spontanément j'ai eu envie de le faire, et je pense que j'ai eu envie de le faire parce que je venais d'une autre expérience qui est celle du jeu de rôle, et le jeu de rôle avait en fait permis à beaucoup de jeunes Français de se mettre à l'écriture de scénarios, de découvrir les univers particulièrement de la fantasy, qu'on appelait médiéval fantastique à l'époque. Et assez naturellement, cette génération d'auteurs français que j'ai publié chez Mnemos, ils venaient du jeu de rôle, enfin Gabory, Collin, c'était des gens qui étaient dans le jeu de rôle. Et donc il y avait en quelque sorte un vivier, si je puis dire, qui ne demandait qu'à être appelé par un éditeur qui dirait « tu ne veux pas essayer de faire un roman ». Et ma rencontre avec Mathieu Gabory, c'est ça. Il me dit, il paraît que tu veux créer une collection de romans. Moi, j'en ai un. Est-ce que tu veux y jeter un œil? C'était Souffre-jour et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est le premier roman que j'ai publié dans ma vie. Ensuite, quand j'ai écrit Brajlon avec d'autres copains, là, on s'est dit qu'on allait faire de la traduction et beaucoup. Mais j'ai voulu continuer à publier des Français. J'en ai publié beaucoup moins. D'une part parce que j'avais moins de temps pour ça, parce que travailler avec des auteurs, ça prend beaucoup de temps. Et aussi parce que les premiers auteurs anglo-saxons qu'on a publiés et traduits chez Brajlon, David Gemmell, Stan Nichols, etc., d'une certaine façon, mettaient la barre assez haut. Je ne suis pas en train de dire que les Français étaient moins bons, mais assez naturellement, le lectorat Brajlon nous disait « quand vous ferez des Français, faudra que ce sera aussi bien que les auteurs anglo-saxons vous avez traduits et qu'on adore ». Alors, heureusement, il y en a. Mais la conjonction de ces deux paramètres a fait que, fatalement, il y a eu moins de Français. Et aussi parce que c'est tellement plus facile de traduire des auteurs publiés en Angleterre, aux États-Unis et éventuellement ailleurs, quand on lit la langue ou quand on a beaucoup de chance, comme j'en ai eu avec Sapkowski, puisque je ne lis pas le polonais. En gros, il n'y avait qu'à se baisser pour trouver des auteurs formidables. On est allé avec Alain à Londres, on est allé dans les grandes librairies, on a vu des étagères avec des auteurs jamais traduits en France, en se disant, lui, il a 40 bouquins sur une étagère, ça doit être pas mal quand même, on devrait jeter un œil à ça. Bon. Mais ça n'empêche que oui, j'aime toujours publier des auteurs français, et j'aime surtout travailler avec eux. Et je tiens beaucoup, et je remercie encore une fois Stéphanie Nicot qui me permet d'avoir cette conférence maintenant depuis plusieurs années, systématique, parce que je pense que c'est important de saisir les occasions de faire bénéficier de jeunes auteurs de l'expérience que, en l'occurrence, que j'ai pu acquérir en 23 ans d'édition, et aussi que j'ai pu acquérir en parlant avec des collègues, en parlant avec des aînés dans ce domaine, qui ont été un peu des mentors, avec les collègues, avec d'autres auteurs, puisque mon expérience, je la tiens aussi de 20 ans de compagnonnage avec Pierre Pevel, par exemple, donc je pense que j'ai beaucoup appris de lui aussi, et d'échanges sur comment vous aider à faire les meilleurs choix, à trouver les meilleurs modèles, les meilleures références, à mieux réfléchir à vos projets, et puis ultimement à avoir le plus de chances d'arriver à vous faire publier.
Donc tu es un découvreur de talent.
Mais oui.
Et au tout début, voilà, le talent, il est là tout de suite, ou est-ce qu'il y a quand même, parce que c'est un premier, plus de travail de toute manière, même si l'auteur est très talentueux, que sur un livre de quelqu'un qui serait peut-être un peu moins, mais qui a déjà de la bouteille.
Le talent est là tout de suite, parce que sinon on ne peut rien faire. Et sinon l'auteur n'en serait pas à proposer un bouquin, c'est-à-dire qu'il y a, et à être lu par un éditeur. C'est-à-dire, tout ne s'apprend pas, quand même. Mais à partir de cette étincelle initiale, oui, il y a toujours beaucoup de travail. Il y a aussi parfois beaucoup de travail avec des auteurs chevronnés, parce que je peux ne pas avoir le même point de vue qu'un autre de ces éditeurs, parce que chaque éditeur a aussi également compétent et talentueux soit-il, a des attentes différentes. Vous voyez des gens comme Gilles Dumais ou Mireille Rivalan à La Talente, et moi chez Bragelonne, on a des personnalités, des goûts et donc des attentes différentes. Et donc on ne va pas nécessairement donner les mêmes conseils. On va peut-être parfois être s'opposer en disant moi je trouve ça bien pour telle raison, et un de mes confrères dira c'est exactement pour ça que moi je l'ai refusé, parce que moi je n'aime pas ça, ou c'est pas ce que j'attends chez moi. Bon. Et aussi parfois parce que l'auteur même chevronné attend ça. Il a envie d'un autre point de vue, en effet d'une autre expérience, d'autres intuitions, parce que je pense que c'est une part qui est très très importante dans ce métier d'éditeur d'auteur. C'est que certes on a pu lire beaucoup de bouquins, lire des livres sur la structure du scénario, mais in fine c'est quand même de l'intuition, c'est l'intuition je pense qui prime, c'est-à-dire ce qui m'a permis, parce que moi j'ai jamais appris à être éditeur avant de l'être devenu, c'est pour ça que je dis à quel point j'ai appris avec les auteurs, mais ce truc qui fait que tu lis le manuscrit, tu parles avec l'auteur et tu vas faire des suggestions, tu vas dire je trouve que cette scène elle fonctionne pas pour telle raison, ou ce personnage devrait faire ça, et ce qui fait que l'auteur me fait confiance ou fait confiance à un de mes collègues qui ferait la même chose, c'est certes l'expérience, ce que tu veux, mais c'est avant tout la façon dont ça va résonner avec lui, et je réussis mon coup quand l'auteur me dit ouais t'as raison. Ouais, en fait, j'y avais pas pensé, t'as raison. Voir quand il me dit, écoute, c'est bien ce que je pensais, mais j'ai changé d'avis en cours de route, mais en effet, c'est ce que je voulais faire au départ. Et ça, il n'y a pas de manuel pour ça. Hein, et c'est aussi pour ça qu'il y a des auteurs avec qui on travaille mieux qu'avec d'autres, parce qu'on a parce qu'on est en phase. Je sais pas, sur tous les titres des romans de Pevel, on a trouvé le même en même temps.
En fait, Pierre, il m'en parlait comme ça en me disant que ce qui est très bien dans la relation que vous avez, ce qu'il aime beaucoup, c'est que des fois, il peut passer une semaine à se prendre la tête parce qu'il ne sait pas comment faire la scène. Et il n'y arrive toujours pas. Et que maintenant, il est en confiance avec toi. Il sait qu'il va passer la journée. Il va te l'envoyer, non pas bâclé, hein, mais en sachant que toi, tu pourras lui permettre d'éviter d'y passer la semaine parce qu'il sait que ton jugement est bon. Et que pour lui, c'est un gage vraiment, enfin, une facilité même dans l'écriture. Il t'en avait parlé ou...
Ouais, enfin parfois c'est une tête de mule quand même. Hein. Sur à peu près chaque bouquin, il y a un moment où il me dit il n'y a que moi qui m'intéresse à ce livre. Ou une de ses grandes phrases, c'est si tu vois un livre de George Martin, il fallait lui demander à lui. Mais c'est ça aussi qui est important. Et ça, c'est un aspect majeur du travail entre auteur et éditeur. C'est que, encore tout à l'heure, il y a une auteure qui m'a dit mais je veux faire un livre, parce qu'elle n'était pas d'accord avec mes critiques, elle me dit je veux faire un livre de moi et pas un livre de Marsan. Je dis mais j'essaye pas de te faire un livre de Marsan, j'essaye de te faire comprendre quelles sont les lacunes et les problèmes dans ton histoire qui sont pas. Si tu les résous, c'est pas juste pour me faire plaisir à moi, c'est parce que ça plaira. Ça a beaucoup plus de chances de plaire à beaucoup plus de lecteurs. Bon. Et donc, parfois on ne s'entend pas. Donc ça veut dire que cette espèce de combinaison un peu magique, d'abord elle marche dans les deux sens. Et enfin, il faut que l'auteur fasse confiance à l'éditeur et que l'éditeur aussi fasse confiance à l'auteur. Et puisse à un moment donné se dire, bon, ça ne me convient pas tout à fait, ou ça je trouve ça lourdingue, ou que sais-je, ou ça devrait être fait autrement. Mais après tout, ben, c'est ta personnalité, c'est ton style, c'est ton, c'est toi. Et si je voulais absolument te dissuader de le faire, je ferais une erreur. Et déjà, tu n'aimerais plus ton livre, ce qui est l'un des péchés capitaux. Hein, c'est il faut que l'auteur aime son livre du début à la fin, parce que sinon, il sera toujours malheureux. Y a des auteurs qui vendent 100 000 exemplaires et qui sont malheureux, qui n'aiment pas leur livre. Hein, et ça, les 100 000 exemplaires ne les consolent pas complètement. Et essayer vraiment de, enfin comme dit Quentin Daniel, qui est un de mes éditeurs, c'est tailler la gemme. C'est que tu vas pas changer la pierre, mais tu vas tourner autour, tu vas essayer de lui donner la non seulement la meilleure forme, mais et je reviens à l'intuition, essayer de lui donner la forme que, à mon avis, il aurait toujours dû avoir, parce que c'était ça en fait le pari que je fais. C'est de dire à l'auteur, en fait, c'est ça que tu voulais faire. Et tu t'en es éloigné, ou tu n'as pas réussi, ou tu t'en es pas rendu compte. Et je gagne mon pari, c'est de me dire, ouais, tu as raison, en fait, c'est ça que je voulais faire.
Donc, en fait, ce que tu conseillerais aux jeunes auteurs, c'est plutôt que de chercher la grosse maison, ou la maison qui les fait rêver parce qu'ils aiment les livres de la maison, de chercher la personne avec qui ils pourraient travailler vraiment.
Oui, mais en même temps, il y a quand même beaucoup d'étapes avant ça. C'est que là, on est en train de parler d'une relation d'auteur à éditeur déjà dans la perspective d'une publication. Avant d'avoir de pouvoir avoir cette relation, il se passe quand même pas mal de choses. Ceci dit, je pense qu'en effet, essayer de vous demander chez qui vous voudriez être publié, parce que l'éditeur a l'air super cool, ou parce que la marque est prestigieuse. Voilà, par exemple, au hasard, Pascal Godbillon vient d'entrer dans cette salle, c'est Folio SF. Non, mais reste, c'est Folio SF. Et vous pouvez vous dire, quitte à être publié par un éditeur français, Folio Gallimard, voilà, ça a de la gueule. Et quand moi, avec Pascal, on a fait des livres ensemble, c'est-à-dire des bouquins que j'ai publiés en grand format et dont il a acheté les droits poche. Et il y a des ouvrages, par exemple, Les Lames du Cardinal de Pierre Pevel, où on s'est dit, dès le début, j'ai dit à Pierre, idéalement, ça serait bien que ça soit chez Folio, parce que c'est un pastiche de Dumas, parce que c'est une écriture merveilleuse. Et si on veut que, par exemple, dans les écoles, dans les collèges et dans les CDI, ils aient envie de parler des Lames du Cardinal et de comparer, par exemple, Trois Mousquetaires, y a plus de chances qu'ils le fassent si c'est publié chez Folio, que si c'est publié chez Milady ou chez un éditeur moins prestigieux. Mais surtout, posez-vous cette question par rapport à ce que vous aimez lire. Et par rapport à la complicité littéraire que vous vous trouvez avec telle ou telle maison d'édition ou telle collection. En tant que lecteur et lectrice, vous pouvez vous dire, moi, j'aime plutôt la fantasy comme chez Bragelonne, ou j'aime plutôt la SF comme chez De Noël. Si je devais être publié un jour, j'aimerais bien que ce soit chez Machin, parce que son catalogue, sa vision des choses, ses couvertures, enfin bref, l'ensemble de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez du travail d'un éditeur, ça vous plaît, ça vous correspond. Et donc, évidemment, n'hésitez pas à le faire. Et comme je le dis bien souvent, je le répète, visez haut. Ah, mais j'ai pas osé vous l'envoyer à vous. Non, mais visez haut. Visez ce que vous voulez. Et voilà, Enfin, tous les gagnants ont tenté leur chance. Hein. Ne vous dites pas, moi, je vais d'abord essayer plein de petits éditeurs. J'ai rien contre les petits éditeurs, mais si vous voulez être publié un jour chez Gallimard, envoyez-le à Gallimard. Hein. C'est pas en étant publié par Tartempion que vous aurez plus de chances un jour d'arriver chez Gallimard. Donc, sinon, j'aurais beaucoup parlé de Gallimard, le bilan. Ouais, c'est ça, tu me perds une tournée ce soir. Bon, malheureusement, il y a très peu de chances d'être publié chez Folio Gallimard. Ouais.
Il vaut mieux démarrer chez Bragelonne et ensuite lui vendre de poche.
Ah, voilà. Donc, oui, cette démarche, cette destination est importante. Donc, je vous invite à vous aller en librairie, vous regardez les bouquins, vous vous dites ça, c'est un truc qui me plaît, ça me correspond, ou l'inverse, ça me parle pas, ou j'aimerais pas avoir ce genre de couverture, ou parce que les maisons d'édition et les éditeurs et éditrices qui y travaillent, ils ont des goûts, ils ont des personnalités, ils ont des habitudes. Bon. Et donc forcément, ça s'appliquera au choix et donc au traitement de votre livre. Je me souviens plus de ta question.
Pas grave, on va continuer. Okay. T'étais parti sur l'idée que bon, il y a quand même pas mal d'étapes avant d'en arriver là. Et du coup, moi, j'avais une question pour revenir un petit peu aussi à ce que tu disais au début sur ce que t'aimes chez les jeunes auteurs. Une des grosses questions qui se pose, c'est quand est-ce que c'est prêt ? Nous, on sait que c'est jamais prêt, mais quand même, il y a un moment où il faut envoyer. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu aimes la fraîcheur, voire la verdeur chez les jeunes auteurs ? Est-ce qu'elle se perd après ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as plaisir à découvrir aussi chez les jeunes auteurs ?
Ça, c'est une drôle de question, j'ai jamais réfléchi. Non, ça m'importe pas vraiment. Parce que je pense que le plus important, c'est que le manuscrit soit soumis. Déjà que le manuscrit soit soumis. C'est bête à dire, hein, mais laisser un manuscrit, travailler 10 ans sur votre manuscrit sans que personne ne l'ait jamais lu, en fait, ça vous aide pas beaucoup. Hein. Orson Scott Card dit. Il y a des manuscrits qui sont... Il y a des premiers romans qui ne sont pas faits pour être publiés. Vous travaillez longtemps sur votre roman, puis vous le gardez, puis vous en envoyez le suivant, parce que vous avez appris en écrivant le deuxième. Enfin, vous avez appris en écrivant le premier, plein de choses qui vont servir au deuxième et qui sera meilleur. Mais il dit aussi, il y a un moment où il faut que ça parte. Il y a un moment où, même si vous n'êtes pas tout à fait content, mais vous avez beaucoup travaillé, il y a un moment où il faut que ça parte. Parce que si vous le gardez dans votre tiroir, ça ne marchera jamais. Donc, il faut l'envoyer. Et il faut oser. Vous ne risquez rien. C'est comme pour les speed dating et pitcher des idées. Vous ne risquez rien. Je n'ai jamais mangé personne. Vous risquez. Enfin, j'ai donné cette analogie hier à un auteur qui me proposait un truc et qui me dit j'ai beaucoup hésité, etc. J'ai dit si tu veux, si une fille qui te plaît, il va bien falloir lui adresser la parole à un moment donné. Et quels que soient les risques, et bon, au pire, elle va te dire vous êtes gentil, mais non merci. Et voilà. Mais donc il faut le faire. Et je comprends que vous soyez timide, et je suis moi à l'origine maladivement timide. C'est difficile, mais c'est la seule façon. Et honnêtement, ça servait à rien d'écrire un roman et d'espérer d'être publié un jour si vous ne pouvez pas à un moment donné le présenter, soit in vivo, soit l'envoyer à un éditeur et risquer. De recevoir une lettre qui vous dit c'est gentil mais désolé ou ça correspond pas et de vous prendre des baffes dans la figure parce que c'est sine qua non et tous les métiers artistiques sont comme ça et les acteurs, les actrices c'est pareil etc. etc. Mais en effet je pense qu'il faut le faire à un moment où vous, même si vous n'êtes pas totalement content de vous ou quand même, vous dites là ça se lit, là c'est le moment où j'aimerais, ou aussi là c'est le moment où j'aimerais bien avoir un retour. Là, c'est le moment où j'ai besoin qu'un professionnel me donne son avis et pas seulement ma mère et mon mari ou ma femme qui ne sont pas des professionnels et qui donc seront toujours très gentils avec vous. Non, en fait, je crois que je vais répondre non à ta question parce qu'en fait, on reçoit trop de manuscrits, voire de soumissions anglo-saxonnes, parce que c'est un peu la mode chez les Anglais maintenant, c'est d'envoyer des bouquins, de voir s'il y a un éditeur à qui ça plaît. Et puis quand un éditeur qui dit oui, ça me plaît, l'agent dit d'accord, ben, maintenant on va le retravailler, on vous l'enverra dans 2 ans. Et ça c'est gavant de dire il fallait le travailler avant de me l'envoyer. Ou tu le refuses parce que tu trouves que c'est pas très bien, et puis tu reçois une nouvelle version 1 an après, puis une nouvelle version 2 ans après. Et ça s'émousse, hein, l'intérêt pour un livre. Donc en fait, plus on le reçoit, plus on se dit « Ah, mais je l'ai déjà lu et je l'ai déjà refusé, donc en fait, je ne vais pas avoir vraiment le courage de me replonger dedans pour voir si c'est vraiment meilleur. Bon, » heureusement, il y a des contre-exemples, et certains que j'ai publiés, mais bon. Donc, je pense qu'il faut, il vaut mieux travailler le plus possible un bouquin avant de le soumettre.
Alors, tu parles du retour d'un professionnel. À part, là, par exemple, au speed dating, où tu prends le temps d'écouter les jeunes auteurs qui viennent, c'est quand même compliqué, j'imagine, de répondre à tout le monde. Et du coup, vous avez une masse de manuscrits qui arrivent.
Ouais. Est-ce que tu veux que je te dise ? Oui, on en reçoit énormément. Là, on a 10 000 manuscrits de retard. C'est pas une figure de style, hein. On a vraiment 10 000.
Faut être patient.
Faut être patient, ça c'est sûr. En même temps, tous les éditeurs sont pas d'accord là-dessus, mais moi je vous le dis pour Bragelonne, n'hésitez pas à nous relancer. Et je vous le dis d'autant plus volontiers que vous ne le faites jamais, en fait. Chaque année, ici aux Imaginales, je dis envoyez-moi votre manuscrit et relancez-moi. Tous les ans, je dis, mais souvent, la plupart des gens, je ne vous l'avais pas fait. Mais non, je n'ai pas osé. Mais je vous ai dit de le faire. Vous n'allez pas vous en vouloir, je vous ai dit de le faire. Parce que je reçois des centaines de mails par jour, on reçoit des dizaines de manuscrits, et vous avez plus de chances que je retombe dessus ou que je me dise, tiens, ce soir, je jette un œil à celui-là, si vous m'avez relancé, plutôt que... Voilà, les manuscrits, ça s'oublie, ça s'entasse, ça s'oublie, etc. Bon, à nous d'être plus performants, d'avoir plus de lecteurs, d'aller plus vite, etc. Aussi, vous améliorez vos chances, parce que c'est aussi le problème de la masse des manuscrits, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui ne s'adressent pas vraiment à nous, qui ne correspondent pas, d'où ce que je vous disais tout à l'heure avant, identifier les éditeurs. Voire même des gens qui disent « Je sais que vous ne faites pas ce genre, mais je me suis dit que... » Mais si je ne fais pas ce genre, il n'y a quand même pas beaucoup de chances que je le prenne. Donc, optimisez vos chances d'être lu avant même, ou considéré avant même de pouvoir être accepté ou de travailler ensemble. Juste qu'on jette un œil à votre bouquin. Venez pas sonner à la porte tous les jours non plus. Mais c'est pas mal d'envoyer un petit mot de temps en temps, disons.
Quand tu dis de temps en temps.
Je sais pas. Ça dépend de votre opiniâtreté, mais je sais pas. Tous les deux mois, un truc comme ça. Oui, parce que malheureusement, ça se compte en mois. Je dis dans un mois aux gens qui me proposent des choses ici, mais au bout d'un moment, vous n'allez peut-être pas le faire tous les mois. Mais tu dis, soyez patient. Ah ouais, soyez patient. Alors là, enfin, il n'y a pas le choix, c'est une école de patience et je pourrais vous... Et soyez tenace, hein, malgré les refus. Là, on connaît des bouquins. Dune a été refusée par 61 éditeurs. Hein. Harry Potter, je sais pas.
Il a été pris chez un éditeur.
Voilà. Et parce que c'est l'assistante de l'agent qui a repêché le bouquin. Hein.
C'est Le Nom de la Rose. Hein. C'est la femme de l'éditeur qui piochait de temps en temps dans la pile et qui s'est marrée toute la nuit en même temps qu'a frémi toute la nuit et qui a dit mais il faut le publier. Et voilà, coup de bol quoi.
Ouais. Les Fourmis de Verber. Refusé par Albin Michel et le patron passe un jour dans les bureaux et dit vous regardez des trucs, oui on a refusé tout ça, il le prend et dit oh, c'est marrant les fourmis, voilà, et il le lit et dit mais c'est vachement bien, méga coup de bol. Mais c'est vous dire que quand vous êtes refusé par un éditeur, par plein d'éditeurs, essayez avec les autres, retravaillez votre bouquin, revoyez-le plus tard, ne vous avouez jamais vaincu, hein. C'est Galaxy Quest, hein, c'est Never Give Up, Never Surrender. C'est sine qua non. Je ne peux pas insister assez là-dessus. Et aussi, je vais vous dire que ça nous envoie un signal. C'est qu'on se dit, et c'est ce que je dis parfois aux gens qui viennent en speed dating ou qui viennent me voir là pour me proposer des bouquins, c'est que le simple fait de faire la démarche, a fortiori de gens très timides, se dire, bon, allez, je prends mon courage à deux mains et je vais aller pitcher mon bouquin, ça nous envoie un signal. C'est qu'on se dit... Elle veut vraiment, quoi. Elle est prête à faire cet effort. Donc, même, encore une fois, même si vous êtes timide, et puis c'est votre livre, hein, le plus important, c'est pas vous dans la démarche pour le vendre, mais je pense qu'on est sensible à ça. On se dit, voilà, il a pas lâché l'affaire. Il y tient vraiment. Donc, montrez que vous y tenez vraiment.
J'ai une anecdote qui va dans ton sens. C'est, tu sais, Paul Behrens, quand il avait demandé comme ça chez son premier éditeur des nouvelles du manuscrit qu'il avait envoyé. C'était le jour où. Et puis là, l'éditrice lui répond, lui dit « Bah ouais, ça nous intéresse bien. » Mais c'était pas celui-là, en fait, qui l'intéressait bien. C'était celui qu'il avait envoyé 2 ans avant. Et qu'ils avaient fini par lire, parce que ça y est, ils avaient eu le temps. Et le jour où, bah lui, non, il était perdu dans la pile. Et finalement, c'est vous qui l'avez publié le jour où, plus tard. Voilà. Et comme quoi, fallait être patient et fallait relancer aussi. Bon, après, on n'obtient pas toujours exactement ce qu'on imagine.
Oui, je vous dirais aussi, en même temps, restez pas bloqué sur le même manuscrit pendant 10 ans non plus. Hein. C'est que vous avez le droit d'essayer avec autre chose. C'est peut-être pas ce livre-là, c'est un autre, de tenter une autre approche ou un autre genre. Ça vous dit, tiens, bon, j'essaierais bien d'écrire de la science-fiction. On m'a pas pris mon bouquin de fantasy, mais je peux essayer de la science-fiction ou du polar ou ce que vous voulez. Voilà, soyez tenace et patient, mais essayez d'autres choses quand même. Hein.
Oui, faites le deuxième roman, quoi. Restez pas que sur le premier. Et après, une fois que ça marche... Ça arrive justement de revenir sur les autres livres, du coup. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à lancer le premier, tu n'arrives pas à lancer le deuxième, ni le troisième. Et puis au bout du quatrième, ça y est, ça fonctionne. Ça arrive de republier ce qui a été fait avant ou,
Ouais. Ouais. Même si on les avait refusés, si tu veux. Ouais, j'ai pas d'exemple en tête, mais... Oui, ce qui arrive, c'est que du coup, fort de la réussite sur le quatrième, pour suivre ton exemple, l'auteur va revenir sur le précédent. Et en disant, j'ai peut-être capté un truc sur le quatrième que je n'avais pas capté sur les précédents, donc je vais les reprendre. Ou alors plus facilement, mais alors évidemment, c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est que le premier publié a super bien marché. Et du coup, l'éditeur se dit, on va regarder les autres, parce que du coup, ça devrait bien marcher aussi. Ce qui, à mon avis, est souvent une connerie d'ailleurs. Je pense qu'il vaut mieux continuer avec les suivants plutôt que d'aller... Tu vois, sur les auteurs qu'on traduit, par exemple, moi, j'ai fait cette erreur avec Graham Joyce, par exemple. C'est que j'ai publié Ligne de vie, qui était son roman, sa nouveauté au moment où je l'ai publié. Et au lieu d'attendre le suivant, le nouveau suivant, je me suis dit, ah ben, y en a un ancien qui n'a jamais été traduit. Ben, c'était une connerie. Il ne fallait pas le faire. Parce que c'était une autre époque de son écriture, c'était pas les mêmes thématiques que celles sur lesquelles ils étaient, et j'aurais dû attendre le suivant plutôt que d'aller chercher un vieux truc aussi intéressant soit-il.
Mais du coup, un jeune auteur, il va quand même moins vendre qu'un auteur confirmé, non ? Ou est-ce que...
Non, pas nécessairement. Déjà, ça dépend de ce qu'on appelle un auteur confirmé. Il y a des auteurs confirmés qui vendent pas depuis 20 ans, hein, mais ils sont publiés quand même, ou vendent pas bien, tu vois, ou vendent pas autant qu'on voudrait. Prenez comme vous voulez. Et un jeune auteur arrive et son truc marche super bien. Et voilà. Bah, là, après, c'est l'art et l'humanité. Hein, c'est qu'il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de science. Évidemment, je pense. J'ai la faiblesse de penser qu'un bon livre a plus de chances de marcher qu'un mauvais, mais on a plein d'exemples autour de nous qui infirment ça, et tant mieux pour les auteurs qui ont du succès, même si leur livre est mauvais, et tant mieux pour les lecteurs qui aiment les lire. Alors vraiment, j'ai zéro jugement là-dessus. Hein. Si, ça arrive qu'un jeune auteur d'emblée vende plus qu'un auteur chevronné. D'ailleurs, je me souviens bien d'auteurs chevronnés qui, de temps en temps, ça leur met les abeilles quand même. Hein. Ils disent, mais d'où il sort ce con-là ? Moi, ça fait 20 ans que je vends 2000 exemplaires. Lui, il se pointe avec son truc et bim, il en vend 10 000. Voilà.
Du coup, est-ce que vous avez des questions qui particulières ou on continue à papoter ? Ouais, allez-y.
Alors, facilement non, mais dans aucun genre. Parce qu'il y a énormément de livres publiés, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent dans le monde et dans ce pays aussi. Mais dans, dans votre préambule, votre impression n'est pas fausse, mais ça se discute quand même. Je veux dire par là, d'abord, il y a des cycles dans, dans le succès des différents genres. C'est-à-dire que le succès des genres, c'est, voilà, il y a des hauts et des bas. Dans les années 80, l'horreur cartonne. Dans les années 90, elle se casse complètement la gueule. La bitlit explose. Moi, je la lance vers 2006 en grand format, 2008 en poche. Elle cartonne, elle fait ça. Et en 2014, je perds 70% des ventes. Et je dis à mes confrères américains, mais quand même, les lectrices de bitlit, elles n'ont pas décidé dans la nuit du lundi au mardi qu'elles ne voulaient plus en lire. Eh bien, si. C'est toujours comme ça, les cycles de vente et de faveur des genres, ça arrive, ça explose et ça tombe comme ça. Alors, ça marche toujours bien, la bitlit, je vous rassure. Hein. Mais c'est quand même violent. Comme, enfin, je vous donne des chiffres qui sont peut-être confidentiels, mais tant pis, je me ferai taper sur les doigts par mes collègues à Bragelonne. Mais voilà, ça vous donne une idée. Hein. Bon. Ceci dit, même quand la bitlit prend un grand coup de part, vont quand même toujours 1 million d'exemplaires par an. Donc, bon, voilà, relativisons le coup de barre. Mais voilà, donc il y a des cycles. Donc quand vous dites la fantaisie est en croissance, en fait, depuis le trône de fer, la fantaisie s'est cassée la figure. Parce que le trône de fer, le succès du trône de fer a fait un effet d'aspiration, ce qui fait qu'il n'y a que le trône de fer qui s'est vendu en fantaisie. Au moment où le trône de fer est à l'apogée de son succès, la part de marché de la fantaisie, c'est moins 25%. Parce que rien d'autre ne se vend. Parce que vous avez tous acheté le trône de fer. Et vous avez bien fait. C'est un super bouquin. Mais les libraires n'ont misé que sur le trône de fer. Bon. Donc ça ne veut pas dire que la fantaisie a complètement disparu, évidemment. Mais voilà, il y a parfois des impressions fausses. Et il y a aussi, enfin, ce qui traverse un peu ma courbe, c'est qu'en même temps, ces genres sont éternels et universels. C'est que même quand un genre se casse la figure, ben, il marche toujours. J'ai une phrase... marrante d'un ancien directeur commercial un jour qui a dit la bitlit n'aura qu'un temps mais elle va perdurer sur le long terme. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais en fait c'est tout à fait vrai. C'est que ce qu'il voulait dire, c'est que cet apogée, ce succès extraordinaire, lui, il va pas durer éternellement. Et c'est vrai pour la romance érotique après Fifty Shades, c'est vrai pour les thrillers avec les Templiers après le Da Vinci Code, etc., etc. Mais en même temps, ce genre ne disparaît pas, il y a toujours des bons bouquins, il y a toujours des lecteurs pour les lire. Donc sur la fantaisie, alors je vous dirais pas que c'est facile, mais oui, il y a toujours un lectorat, il y a toujours un rayon, il y a toujours une vitalité du genre, et ça vaut le coup, ça vaut le coup d'en écrire, de vouloir être publié, et même... Et puis aussi, il faut attendre son heure. C'est-à-dire que la science-fiction a traversé une traversée du désert là, pendant une grosse dizaine d'années. Et c'est pas mal reparti. Pas dans les mêmes proportions qu'avant, pas exactement la même science-fiction. Et il faut se méfier parce qu'il y a des... Là aussi, il y a des best-sellers qui sont les arbres qui cachent la forêt. C'est pas parce qu'il y a... Enfin, c'est pas Seul sur Mars qui laisse croire que l'ASF, ça marche. Non, c'est Seul sur Mars. Bon. Ou Silo. Bon. Mais en même temps, il y a des éditeurs qui font du très bon boulot en science-fiction. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Et ça tourne pas mal, et ça tourne mieux qu'il y a un certain temps. Voilà. Donc, c'est bien de vous préoccuper de ces enjeux-là, mais en même temps, il ne faut pas complètement s'en préoccuper. Parce que, d'abord, il faut faire, j'aurais peut-être dû commencer par ça, en fait, écrivez ce que vous aimez, écrivez ce qui vous plaît. Sinon, vous allez vous faire chier, et vous allez être malheureux, et vous n'allez pas y arriver. Donc, soyez pragmatique, prenez des conseils, intéressez-vous à ce qui marche moins bien, etc. Mais faites votre truc. Parce que ça va vous prendre un temps fou, donc il vaut mieux que ça vous plaise, quoi. Il vaut mieux que vous sachiez pourquoi vous le faites, quoi. Et ça se voit, ça se sent. Quand on lit un manuscrit, quand vous lisez les auteurs que vous aimez, vous sentez, en fait, ou à l'inverse, on sent quand un auteur s'emmerde. On sent quand vous lisez un auteur qui a écrit un bouquin par an depuis 40 ans, et ben les derniers, ils sont pas très bons. Et ils sont pas très bons parce qu'il en a marre, parce que ça ne l'amuse plus. Donc, faites ce qui vous plaît et en même temps, si vous hésitez, par exemple, entre plusieurs approches, plusieurs genres, etc., là aussi, posez-vous des questions sur ce qu'il faudrait, enfin, sur la pertinence et aussi, encore une fois, sur... Il y a plein d'éditeurs différents. Donc, et c'est marrant, c'est quelque chose qu'on me disait hier soir, quelqu'un qui me disait, je suis très étonné de voir que dans l'imaginaire, ça pose aucun problème aux éditeurs que les auteurs en aient plusieurs. Que les auteurs, et alors, a fortiori en, dans la jeunesse, tu vois. Ah ben je publie chez Rajo, je publie chez Nathan, je publie chez machin, je publie chez Brajlon, je publie chez ActuSF, je publie... Ben ouais, et en effet ça ne nous pose aucun problème. Cet observateur était étonné parce qu'il dit en général, les éditeurs sont très frileux là-dessus. Et je pense que l'une des explications, c'est d'une part la petitesse du marché que vous venez, de, que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire si tu es bien placé pour savoir, si vous voulez vivre de votre plume ou gagner correctement votre vie en, en écrivant, ben vous avez intérêt à, vous avez plus de chances d'y arriver en publiant chez plusieurs éditeurs et quatre bouquins par an qu'un seul chez un seul. Et, ou alors vous cartonnez et vous n'avez plus de problème. Et deuxièmement, évidemment j'ai oublié à force de bavarder et de digresser. Merde, c'est quoi l'idée ?
C'est un plaisir.
Merde.
Bah ouais, non, mais je
la vieillesse.
Je sais pas ce que tu voulais dire.
Tu sais pas ce que je dis, mais oui, mais ça fait des années que ça dure. Ah oui, donc la diversité. Et la deuxième raison, c'est que je pense qu'il y a beaucoup moins de cette espèce de rapport, de cette espèce de chantage affectif qui a été très longtemps très typique de l'édition, c'est-à-dire un éditeur qui dit à un auteur, tu veux publier ailleurs, tu me poignardes dans le dos, ça l'ingrat, etc. Et en fait, non, pourquoi ? Parce que les éditeurs sont tous différents. Je vous donne un exemple. Très concret, quand je crée Brajlon, bah Fabrice Collin, que j'avais publié chez Mnemos, me suit, me propose un bouquin, et puis il me dit bah, j'ai un manuscrit qui intéresse la Talente. Et je dis bah, c'est super. Et il publie Vengeance chez moi, qui est un putain de bouquin d'Heroic Fantasy, et il publie Or Not To Be, qui est une sorte de méditation sur Shakespeare à la Talente. Deux bouquins complètement différents, chez deux éditeurs différents, avec des goûts différents, et peut-être que la Talente n'aurait pas pris Vengeance, et moi, j'ai pas pris Or Not To Be. Donc voilà, il y a quand même. Bon, et vous avez dit, je me souviens plus, vous avez dit un autre truc sur la fantaisie et le marché qui m'a... Oui, c'est une niche. Oui, mais encore une fois, oui et non. Allez dire à Chatham, qui vend 400 000 exemplaires d'autres mondes, que c'est une niche. Bah non, pour lui, c'est pas une niche. Pour George Martin, c'est pas une niche. Évidemment, on part de... je crois que c'est 7% du marché de la fiction en France, la SF et la fantaisie. Donc en effet, a priori, c'est pas grand-chose. Dans ces 7%, y a des très bonnes ventes, il y a des gens qui vivent de leurs plumes, il y en a, et il y a plein de lecteurs contents.
Aussi. Parce qu'en jeunesse, enfin dans les 7%, tu comptes pas la
jeunesse. Je compte pas la jeunesse, absolument. Ouais. Oui, parce qu'on dit l'imaginaire implicitement, l'imaginaire adulte, mais évidemment, énormément d'imaginaire en jeunesse. Et d'ailleurs, on s'en rend compte ici, dans les speed dating, la moitié des propositions sont des propositions young adult ou même carrément jeunesse. Ouais.
Du coup, est-ce qu'il y avait une autre question ? Oui ?
Après, est-ce que ça veut dire que du coup, c'est pas non plus éliminatoire, mais est-ce que c'est vraiment très péjoratif ? C'est un premier manuscrit d'un jeune auteur, n'est pas absolument de votre goût. Vous pensez que ça peut être modifié, améliorable ? Est-ce que vous considérez ça mauvais ou plutôt bon, en fait ?
Ah non, non, très très bonne question. J'ai presque envie de vous dire, au moment où l'éditeur vous dit ça m'intéresse, ça commence. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, et d'ailleurs c'est bien parce que ça me fait penser à d'autres trucs qu'il faut que je dise, il y a quand même des trucs à apprendre pour savoir écrire des bonnes histoires, mais j'y reviendrai. Bien sûr, c'est même, comment dire, il y a même une part d'enthousiasme de l'éditeur en se disant, c'est pas nickel, mais je vois ce qu'on peut faire avec ça. Il y a encore le côté, l'image de la gemme, c'est de se dire, il y a un super potentiel, et il y a peut-être beaucoup de travail, et peut-être des années de travail. Il y a une jeune auteure, Hélène Merel, qui est en plus spinalienne, qui vient de publier son roman La Fugitive. Je l'ai rencontrée en speed dating ici en 2010. Donc elle aura travaillé 7 ans son bouquin. Évidemment, il y a des moments où elle m'a dit, j'en ai vraiment ras le cul, Marsan. Et il y a aussi des moments où je lui ai dit, mais écoute, si tu veux laisser tomber, je comprendrai, je t'en voudrais pas, etc. Mais je pense que c'est pas encore ça. Il y a encore du boulot à faire. Et donc, ça, c'est aussi très enthousiasmant pour un éditeur de se dire, oh là là, il y a un truc, il y a quelque chose. Oui, il y a du boulot, mais il y a quelque chose. Mais il faut qu'il y ait, comment dire, il faut qu'on puisse en apercevoir les perspectives. À l'inverse, il y a aussi des cas où on se dit, et là, c'est très frustrant, c'est de se dire, oh, il y a vraiment quelque chose dans ce bouquin, mais trop de boulot. Et ce serait un mauvais, là aussi, pour être tout à fait sincère, enfin, j'espère que Hélène ne m'en voudra pas de le... Mais il y a des moments où j'ai dit à Hélène, en fait, je suis désolé, j'ai peut-être fait une connerie. Quand je t'ai dit, ok, je prends, mais il y a du boulot. Peut-être que j'ai fait une connerie en disant, ok, je prends. peut-être que maintenant tu m'en veux et tu dis, en fait, tu m'as fait une fausse joie. Et moi, je me dis, en fait, j'ai peut-être trippé. J'ai cru que ça donnerait le bouquin dont je rêvais pour elle. Et en fait, on ne va pas y arriver. Et du coup, je vais... Voilà, on est allés dans le mur tous les deux. Alors heureusement, la fin est heureuse puisque le bouquin est formidable.
Parce que là, c'est très triste.
Oui, oui. Ben non, ben finalement, ça finit bien puisque son bouquin est là et que son deuxième roman, son deuxième tome, est à 300% meilleur que le premier. Donc ça veut dire, c'est ce que je vous disais, c'est que les années de travail sur le tome 1 ont servi sur le tome 2. Un deuxième roman est quasiment toujours meilleur que le premier dans un cycle. Parce qu'on n'apprend pas seulement... À améliorer ce bouquin, mais on apprend à mieux écrire et à mieux raconter d'histoires tout court. D'où ma petite digression, c'est, enfin, l'intuition, le rapport avec l'éditeur, etc. Mais enfin, quand même, il y a des outils. Il y a des ateliers d'écriture. Alors, on n'en a pas beaucoup en France. Ça commence à arriver, mais c'est aussi pour ça que les Américains dominent le marché du livre mondial. Hein. C'est qu'ils ont des cours de creative writing. Ils ont des cours d'écriture. Hein, aux États-Unis, on dit... écrire des bons romans ou des bonnes histoires, ça s'apprend. En France, on a cette espèce de conception que vous naissez génie ou pas du tout, que le talent, ça tombe du ciel. Non, pas du tout. Vous avez des livres. Là aussi, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont essentiels. La dramaturgie de Lavandier, qui est la bible de l'écriture du scénario, enfin, en gros, de comment écrire une bonne histoire en français. En anglais, il y a Save the Cat, si vous lisez l'anglais, parce que la traduction française n'est pas très bonne. Save the Cat de Snyder, qui à l'origine a été écrit pour les gens qui voulaient vendre leur script à Hollywood. Mais en fait, c'est plein de bonnes idées. En plus, c'est plutôt marrant à lire. Moi, j'avais publié, là, on va pouvoir le rééditer. Ah oui, comment écrire de la fantasy et de la science-fiction d'Orson Scott Card, qui est une boîte à outils. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc où vous allez faire toutes les étapes, ce n'est pas une recette de cuisine. D'abord, je fais ça, et à la fin, j'ai un chef-d'œuvre et un best-seller. Mais c'est une boîte à outils. Il y a plein de bonnes idées. Il y a des trucs, ah putain, ouais, ça c'est une bonne idée, j'y avais jamais pensé. Ou je pourrais essayer ça, etc. Donc, travailler son bouquin tout seul, vous n'êtes pas tout à fait tout seul, parce qu'il y a des manuels pour vous aider. Et en France, ça se sait peu, ça se fait peu. Et tu ne me contrediras pas, vous lisez la dramaturgie de Lavandier, alors vous ne le lisez pas d'une traite, hein, parce que c'est... Voilà. Mais c'est... des révélations, quoi. Vous dites, et vous sortez de là, mais vous marchez au-dessus du sol, vous dites, c'est extraordinaire ce que je viens d'apprendre, des conneries que je faisais sans savoir que c'était des conneries, des trucs qui me débloquent immédiatement, voilà, des trucs de travail, et puis des réflexions, des analyses de scénarios. Pourquoi le scénario de ce film est considéré comme l'un des meilleurs scénarios jamais écrits ? Il vous l'explique, et vous dites, ah ouais, voilà. Donc, il y a quand même, voilà, y a plein de choses à faire, à apprendre et à pratiquer, avant d'avoir un éditeur qui va vous aider à le faire. Mais l'éditeur, un, vous, avec un peu de chance, il a aussi cette compétence, il a aussi lu ses livres et puis il a digéré pas mal de trucs. Puis surtout, l'éditeur, il va essayer de mieux les appliquer à qui vous êtes. C'est-à-dire que je travaille pas de la même façon avec Olivier Gay, avec Pevel, avec Manon Fargeton, parce qu'ils sont différents, ils ont des goûts différents, ils ont des univers différents, ils ont des propos différents, ils ont des défauts différents. Même le grand Pierre Bordage, qui a une humilité extraordinaire, dit « t'as raison là-dessus ». Enfin, vous voyez, on parlait tout à l'heure de la timidité. Moi, quand il a fallu que je dise à Pierre Bordage « écoute, là, cette scène, je suis pas très sûr », j'étais dans mes petits souliers, quoi. Le mec, il est là depuis 93, c'est un très grand auteur, il a vendu des millions de bouquins. Et moi, qui je suis pour lui dire ah, « là, c'est pas très bien ». Eh bien, il m'a dit « mais t'as raison, ouais. J'avais pas pensé, t'as raison, c'est une bonne idée ». Voilà. Donc, ouais,
il voulait travailler
voilà.
Avec toi aussi.
Ça s'apprend. Oui, mais enfin, aussi. Il pouvait très bien me dire, d'ailleurs, sur d'autres trucs, il m'a dit, non, c'est bien comme ça. Ben, il avait pas tort, hein, ça... mais voilà, dans la relation, disons que je pense qu'il y aurait en quelque sorte une phase technique un peu, comment dire, désincarnée quand vous travaillez tout seul sur votre livre, en vous aidant de manuels, de conseils, de masterclass, de tout ce que vous voulez, de conversations avec des auteurs chevronnés. Alors, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de temps à vous accorder, mais en speed dating, il y a des gens qui me disent... c'est arrivé, Victor Fleury, qui était en speed dating il y a 2 ans ici, il m'a dit « Xavier Mauméjean a lu mon bouquin ». Eh bien, ça se voit. Merci, Xavier Mauméjean, parce qu'il t'a donné des putains de bons conseils. Voilà, et j'ai publié Victor Fleury. Donc il y a des voilà, Duniac et Yardel ont fait ça pendant des années. Voilà, pouvaient demander gentiment parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, mais aussi de profiter des conseils d'auteur. Et ensuite il y a une deuxième phase qui est plus incarnée, plus personnelle, où là l'éditeur va plus s'adapter à votre personnalité et à votre projet, parce que les bouquins sont très différents aussi. On travaille, on dit pas la même chose à un auteur de thriller d'action et à l'auteur d'un roman intimiste féerique. Enfin, vous voyez, c'est pas du tout la même. On cherche pas du tout la même le même objet final, quoi.
Tu avais un autre conseil pour bien écrire ou est-ce qu'on prend une autre question ?
Ah non, allez-y, allez-y.
Oui ? C'est pas grave, faut essayer.
Alors, je pense que ce qui est miraculeux, c'est Cocyclix. Voilà. Mais je le dis d'autant plus volontiers que ma première rencontre avec quelqu'un de Cocyclix qui m'a proposé le truc, je l'ai allumé tout de suite en disant « Vous êtes qui pour prétendre donner conseils professionnels à des auteurs et que va devenir le livre après, etc. » Et elle ne s'est pas démontée. Et elle m'a dit « D'accord, parlons-en. » C'était Sylvie. « Parlons-en. » Et ensuite, j'ai découvert le boulot de Cocyclix et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et j'ai publié plein d'auteurs, et pas seulement moi, qui viennent de Cocyclix, parce que c'est une... Je trouve que c'est une enfin, je sais pas si je dois dire une épreuve, une école, un parcours extrêmement pertinent, voilà, qui à ma connaissance est unique au monde. Hein, je l'ai dit dans une interview dans un canard américain, et le type, bah oui, dans Locus, qui est le canard américain de science-fiction, et l'intervieweur m'a dit, j'ai jamais entendu parler d'un truc pareil, de lecture réciproque. Vous ferez des critiques sur mon texte et je ferai des critiques sur le vôtre. Voilà. Donc j'en pense plutôt du bien. En même temps, ce qui est problématique avec ce genre de truc, c'est que quand 10 personnes différentes vous donnent leur avis et que ce n'est pas le même, qu'est-ce que vous gardez, vous en faites quoi, etc. Mais en même temps, c'est aussi ce qui va vous arriver si, et je vous le souhaite, vous êtes publié un jour. Vous allez vous faire défoncer dans la moitié des critiques et encenser dans les autres. Donc, et là, enfin, je vais vous dire ce que dit toujours Pierre Pevel, c'est que quand on a une critique bonne, on est heureux, on a une critique mauvaise, on est malheureux, et qu'ensuite on a des dizaines de critiques dans tous les sens, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on garde les bonnes en disant c'est cool, et les mauvaises, on dit bon, bah tant pis, ça vous a pas plu. On s'y fait. Bon, mais il y a 20 ans de carrière. Hein. Donc j'en pense globalement du bien, mais ça dépend des. Enfin, comment dire. En tâchant d'évaluer au mieux ce qu'on vous dit. Mais vous n'échapperez pas à la lecture d'autrui. Publier, ça veut dire rendre public. Donc, voilà, il y aura des gens qui vous liront. Et il faudra en faire l'épreuve, quoi. Donc, autant la faire le plus tôt possible.
Il nous reste 4 minutes. Ouais, vas-y.
Honnêtement, ça dépend du temps que j'ai. C'est-à-dire que prendre du temps pour lire quelque chose dont on sait très bien qu'on ne le publiera pas, c'est un effort supplémentaire et honnêtement un peu inconsidéré. Mais ce qu'on peut se permettre de le faire, c'est pas mal parce que ça permet entre guillemets de goûter le travail de l'auteur et de dire, en fait, c'est pas mal tout ce que vous faites, mais moi, je fais que des romans. Si vous voulez en faire un, je serais content de le voir. C'est aussi l'intérêt de certaines publications sur Internet. Scott Lynch a été, grand auteur de fantasy américain, a été repéré parce qu'il a publié le début de son bouquin sur le net. Hein. Et il y a un type qui l'a lu et qui a écrit à l'homme qui allait devenir son éditeur en Angleterre, Samuel Spatton, en disant « J'ai lu un truc sur Internet, tu devrais vraiment y jeter un œil. » Donc il a drôlement bien fait. Donc non, je pense qu'il faut tout essayer. Voilà. D'autres questions ? Oui ?
Est-ce que vous pensez commencer directement avec une série ? C'est dangereux ou mieux commencer un comics ?
Alors, je vais vous répondre ce qu'a répondu George Martin à cette question. où il a dit, je reçois des mails de gens qui me disent, est-ce que vous voulez bien jeter un œil à ma saga en 18 tomes? Et il répond, commencez par écrire une bonne histoire. Et voilà. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup dit ces deux derniers jours, parce que je pense que, comment dire, trop d'ambition tue l'ambition. C'est que, enfin, une bonne histoire, bah déjà, il y a très peu de chances qu'un jeune auteur ait la maîtrise pour concevoir et écrire convenablement 3-4 tomes, et qu'il risque de se perdre, qu'il risque de voilà, il ne pourra pas... faire le meilleur travail, il ne pourra pas concevoir la meilleure histoire, la mieux racontée possible sur quelque chose d'aussi gigantesque. Vous pouvez en avoir envie, vous pouvez le garder en tête, etc. Mais quand il dit, Martine, écrire une bonne histoire, c'est que lui, il a commencé, comme la plupart des auteurs américains, par écrire des nouvelles, il a écrit des épisodes de séries télé, et là, quand vous avez 42 minutes, vous n'avez pas le temps de raconter grand-chose, hein. Donc vous êtes obligé d'aller au plus près, de garder que ce qui est essentiel, que ce qui marche, que ce qui est évident, que ce, vous voyez. Et donc, même s'il y a une espèce d'impulsion créatrice qui vous donne envie de faire un univers immense, raconter une histoire avec beaucoup d'ampleur, etc., dites-vous bien que d'abord, il va falloir réussir le premier tome, sinon le reste n'existera jamais, et vous concentrer sur ce qui va vraiment faire la meilleure histoire possible. Et j'ai presque envie de vous dire, avec la meilleure économie de moyens possible. Parce qu'il vaut mieux essayer de faire la meilleure histoire possible en 50 000 signes, ce qui est très difficile. Hein. Les nouvelles, c'est un genre très très difficile. Les plus grands auteurs de genre du monde, comme Stephen King, sont avant tout des grands novelistes. Hein. Mais parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, hein. C'est comme la série télé, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous faites une histoire en 20 pages, le temps d'exposer, c'est fini. Hein. Donc, d'ailleurs, ça vous apprend à ne pas exposer l'univers. On va le découvrir à travers l'histoire. Voilà. Donc vous apprenez immédiatement des choses. Ça vous force, c'est une contrainte qui vous oblige à optimiser votre projet. Alors ensuite, je suppose que votre question elle est aussi commerciale. Lancer d'emblée une série, c'est un gros investissement pour un éditeur. Donc, on est tous prudents et il faut vraiment, c'est quasiment vous faire un chèque en blanc de se dire, allez, j'y vais, je m'engage sur 3, 4, 10 volumes, etc. C'est quand même assez improbable. Et puis ensuite, on ne sait jamais ce que la vie vous réserve. Hein, si vous faites une dépression à la fin du tome 2 et qu'on attend 10 ans le suivant ou peut-être jamais, ben oui, mais c'est la vie. Hein. Ou vous changez de pays, vous allez au Tibet, vous devenez bonze, on n'aura jamais la suite. Donc, non, ça ne m'est jamais arrivé. C'est un gros investissement. Et alors, j'ai pas de mot magique. Oui, il faut faire un stand-alone. Oui, il faut faire une série. Oui, machin. Il faut faire votre meilleur bouquin, celui que vous avez vraiment le plus envie de faire, et celui qui requerra la meilleure adhésion de l'éditeur. J'ai tendance à penser en ce moment que depuis quelques années, que un très bon stand-alone, c'est quand même vachement bien. Le 7e guerrier mage de Paul Béorn, les bouquins de Manon Fargeton que je publie, c'est 1 million de signes, c'est déjà pas mal, quoi. Faites un très bon et un grand roman, et puis ensuite vous verrez, quoi.
On va terminer là-dessus, parce que c'est une très belle formule de fin. T'es hyper doué pour ça.
Merci infiniment pour votre attention.
Merci.